Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mouni.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Chers auditeurs et téléspectateurs, bonsoir. Seydou Fomba vous l'a dit tout de suite. Mouhamadou Touré en chemise rouge et un des invités, Ibrahim Ikassa Maïga, cravate rouge également, pour parler de ce sujet brûlant et inquiétant, la situation sécuritaire du pays. Les drapeaux en berne à partir de ce lundi pendant 3 jours en hommage aux victimes des attaques terroristes perpétrées la semaine dernière. Le pays déplore une 50aine de morts civiles et militaires maliens. Pour certains analystes, ces attaques sont une façon pour les terroristes de montrer leur présence, surtout à l'approche des élections. Alors pourquoi la plupart de ces attaques visent-elles les militaires maliens? Quel est l'objectif recherché par ces terroristes? L'armée devrait-il changer de stratégie, notamment pour être plus offensive? Nos invités, Diakari Poudjougo, docteur en sciences juridiques et politiques, Ibrahim Ikassa Maïga, juriste, et Mamadou Samake, politologue au téléphone. Je suis Mouhamadou Touré.
Le Grand Dialogue.
Alors, je l'ai dit, la situation sécuritaire, elle devient de plus en plus inquiétante ici dans le pays. Le point sur les dernières attaques avec Mariam Maïga.
Ce lundi matin, les activités ont repris timidement à Menaka. La ville n'est pas animée comme les autres jours. Plusieurs personnes sont restées terrées chez elles. Les militaires sont visibles un peu partout dans la ville. La garde nationale a renforcé ses positions aux abords du camp. Nanout Kocha, premier adjoint au maire de Menaka.
Non, les mêmes dispositions continuent, les mêmes patrouilles que nous avons, que tous les jours du gouverneur organisé continuent. Les mêmes patrouilles, dans les mêmes conditions. Donc, c'est ça. Le moral de quelqu'un, c'est son moral. Les gens commentent par-ci, par-là, mais de toute façon, ce n'est pas agréable. Les populations là sont impuissantes, les paisibles populations là sont impuissantes pour trouver ce chemin. On se résigne.
Au nord comme au centre du pays, les forces maliennes et étrangères sont la cible d'attaques terroristes. Les casques bleus ne font pas exception à la règle. Pour Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, l'AMINUSMA ne peut pas tout faire au Mali. Selon lui, le modèle du G5 Sahel est à suivre pour tous les États africains qui veulent prendre leur sécurité en main.
Il y a des situations qui requièrent des opérations d'imposition de la paix et de la lutte contre le terrorisme. Et là, on n'a pas besoin de casque bleu. Là, on a besoin de forces, notamment de forces africaines. Mais il faut que ces forces africaines aient un mandat clair du Conseil de sécurité, désirablement sous le chapitre 7, et des fonds garantis pour leur action. Nous avons dit dès le commencement qu'il nous faut un G5 Sahel avec un mandat plus fort et avec un financement garanti. Et que tous les membres du Conseil de sécurité devraient appuyer cette proposition. Malheureusement, le Conseil de sécurité n'est pas suffisamment loin, mais nous espérons que ça puisse progresser dans cette direction.
En une semaine, plus d'une 50aine de morts, dont 26 civils, ont été enregistrés dans le pays suite à des attaques. Face à la situation, le gouvernement a décrété un deuil national de 3 jours sur toute l'étendue du territoire à compter de ce lundi. C'est la deuxième fois en moins de 2 semaines que cette mesure est instaurée dans le pays.
Diakari Poudjougou, une 50aine de morts en quelques jours suite à des attaques. Quelle explication donnez-vous à cette situation?
Alors je voudrais, merci, je salue nos auditeurs et les téléspectateurs aussi. Je ne commencerai pas sans dire qu'il faut s'incliner devant la mémoire de nos parents, de nos concitoyens, de nos combattants, nos soldats. Nos braves soldats, il faut les reconnaître, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos parents qui meurent. Et c'est grave. J'aurais tort de ne pas dire que c'est grave, la situation est très grave. Il y a donc des responsabilités. Les responsabilités sont partagées et peuvent être situées à plusieurs niveaux. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Et comme on le dit, le serpent a une tête. Et c'est par la tête qu'on frappe le serpent. Et ça veut dire que ceux qui sont au pouvoir sont les premiers responsables. On n'est pas au pouvoir pour un décor, comme un monument. Non, on est là parce qu'il y a des responsabilités à assumer. Et la première responsabilité, ou l'une des premières responsabilités d'un pouvoir, c'est d'assurer la sécurité de son territoire, de sa population.
Et est-ce que le gouvernement arrive à relever ce défi, selon vous?
Le gouvernement doit arriver à relever ce défi. Il doit le faire. C'est sa mission. Il est là pour ça. il ne peut donner aucun prétexte pour dire qu'il n'arrive pas à le faire. C'est pour ça que j'ai parlé de responsabilité. Nous avons les moyens, nous avons les potentiels, nous avons tout ce qu'il faut pour sécuriser le Mali. Si le Mali n'est pas en sécurité, c'est qu'il y a des responsables qui n'ont pas assumé correctement leur travail. Il n'est pas du tout normal que les Maliens continuent à mourir chaque jour. On doit arrêter le sang malien qui coule. Il ne faudrait plus qu'il y ait du sang malien qui coule de façon injuste.
Ibrahim Kassamaïga, êtes-vous d'accord avec M. Poudjougo qui pense que nous avons tous les moyens et les potentialités pour pouvoir assurer la sécurité dans le pays?
Merci bien, M. Touré. Merci à mon collègue Poudjougo. Je salue aussi en coin le professeur Mamadou Samake qui est en ligne avec nous. Je m'incline aussi pieusement devant la dépouille de tous ces morts, toutes ces victimes souvent innocentes. Je vois en coin l'explosion du véhicule de transport à Boni, où il y avait et des personnes, des nationaux maliens et aussi burkinabés, nos frères et sœurs burkinabés qui étaient concernés aussi. Vous voyez, nous sommes face à la rançon de l'improvisation. Maintenant, autant les tenants du pouvoir malien actuel sont responsables de cette situation, mais autant la communauté internationale est présente en force, parce qu'il ne faudrait pas minimiser cela, puisqu'on n'a pas moins de 15 000 hommes venus nous assister dans la lutte uniquement du terrorisme, et c'est plutôt ce terrorisme-là dont les animateurs, nous sommes d'accord, les combattants se comptent dans les proportions, si on doit en tenir compte, beaucoup moindres que les hommes venus nous assister, sans compter les forces armées maliennes présentes sont donc sur le territoire national aussi censées sécuriser cela. Donc il y a de l'improvisation, parce que de lutte contre le terrorisme, il n'y en a pas réellement. Le terrorisme, c'est une guerre asymétrique, c'est une véritable guerre, mais asymétrique. Mais alors la moindre des choses, c'est de s'adapter à cela. C'est de ne pas laisser occuper le terrain, et je ne vois pas d'initiative dans ce sens. Ça fait plusieurs mois que nous crions cela pour dire occupez le terrain, ne laissez pas le terrain à ces djihadistes qui pénètrent et qui là où l'État n'existe pas, en impose aux populations, les oblige à collaborer. Et justement, nous sommes dans cette improvisation où on ne donne pas du tout l'impression de vouloir lutter contre ce terrorisme rampant. Et donc, finalement, c'est des victimes innocentes qui sont là. Les soldats, autant maliens que ceux de la communauté internationale, sont cantonnés dans des camps avec des patrouilles, comme on vient de l'entendre tout de suite, des patrouilles par intermittence, et finalement c'est des chairs à canon face à ces djihadistes qui ne s'en laissent pas compter et qui véritablement pénètrent dans le monde. Donc c'est aussi une réponse, puisque ces djihadistes l'ont laissé transparaître, c'est une réponse aussi à cette initiative du G5 Sahel qui peine à se mettre véritablement en place et à occuper les terrains comme ils ont voulu le faire. Donc je dis, de ce point de vue, les responsabilités sont largement partagées, et nous nageons en nos troubles, c'est les pauvres populations qui en pâtissent tous les jours.
Ces pauvres populations, est-ce qu'elles jouent le rôle qu'il faut pour pouvoir lutter contre cette insécurité?
Les populations ne demandent qu'à jouer ce rôle. Les populations ont marqué leur appartenance à la nation malienne, et donc c'est au gouvernement d'occuper le terrain pour les protéger.
Et par rapport à la collaboration?
Mais justement, par rapport à la collaboration, ce qu'il faut comprendre, c'est que les populations se mettent sous la coupe du prince du jour. Et dans ce cas, entre guillemets, le prince du jour, c'est les djihadistes qui régentent et qui écument les zones sous occupation djihadiste. Dans le centre, comme dans la zone de Boni, et jusqu'à la frontière nigérienne, et au-delà, le long du fleuve au-delà. Mais vous voyez bien que la nature a horreur du vide. Et ces djihadistes profitent, s'incrustent et en impose aux populations qui, sauf à être suicidaires, sont obligées de collaborer avec justement ces djihadistes-là. Okay? Parce que tous ceux qui ont été soupçonnés d'informer les autorités ou tous ceux qui ressemblent à des personnes extérieures à la zone, mais sont systématiquement traqués par ces djihadistes, sont assassinés. Et c'est des assassinats ciblés que nous avons vus, des notables, des enseignants par-ci, des imams par-là, ou des responsables de jeunesse ou d'autres groupes ont été ciblés. Et finalement, c'est la terreur. Et les gens se tairent plutôt que de dénoncer, et ils collaborent. Parce que même la non-collaboration avec les djihadistes est suspecte, donc, au nom de ces djihadistes. Et donc, finalement, tout le monde se met à leur rythme.
D'accord. Professeur Mamadou Samake, est-ce que vous pensez que... Pourquoi... Est-ce que vous avez une explication du fait que la plupart de ces attaques n'ont visé que les militaires maliens?
Bon, l'explication du fait que la plupart des attaques n'ont visé que des Maliens, c'est d'abord pour... Ça fait le moral des troupes. Et les groupes armés, depuis la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation, se sont davantage multipliés. Je ne sais pas, parce que quelques dividendes de la paix ont commencé à surgir au regard des émoluments donnés aux membres du comité de suivi. Bon, on a beaucoup plus mis l'accent sur les mesures institutionnelles et politiques, les mesures liées au développement tel que prévu dans l'accord pour la paix et la réconciliation, sans privilégier les mesures sécuritaires, c'est-à-dire le cantonnement des troupes. Donc, à ce niveau, je crois qu'il faudra revoir la copie et que la communauté internationale, c'est vrai, comme le disait le docteur Koudibou, que la mission régalienne de l'État, c'est assurer la sécurité des populations. Mais dans le contexte que nous vivons actuellement, l'État malien ne peut pas lui seul, comment dirais-je, assurer cette sécurité. On nous a imposé un accord de paix et je crois que Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, lui-même l'a reconnu aujourd'hui. Il va falloir quand même que le mandat de l'administration soit aussi un mandat d'imposition de la paix.
Alors, est-ce parce que les FAMA sont beaucoup plus faibles par rapport à leur capacité de riposte que ces djihadistes s'intéressent beaucoup plus aux militaires maliens qu'aux forces internationales présentes également sur le terrain?
Bon, ce n'est pas que les militaires maliens. Hein. Je crois savoir que pas plus tard qu'avant-hier, il y a, l'administration aussi qui avait fait l'objet, d'attaques. C'est pas que les FAMA.
Oui, pas que les FAMA, mais les FAMA sont les plus visés.
Oui, les FAMA sont les plus visés parce que, vous savez, la rébellion, ceux qui avaient pris les armes contre le pays, parce qu'aujourd'hui, tant qu'on n'arrivera pas au processus de désarmement, il est difficile de sortir le vrai de livret. Donc, c'est le Mali qui est attaqué et je crois que avec la mise en œuvre des forces du G5 Sahel, c'est une façon de leur dire nous sommes là et n'avons pas peur de vous.
Alors, docteur Poudjougou, si nous avons tous les moyens qu'il faut, qu'est-ce qui empêche le Mali aujourd'hui de résoudre cette situation? Est-ce par manque de volonté ou par manque de capacité?
Il y a avant tout un manque de vision. Parce que quand on est à la tête d'une nation, il faut être un visionnaire, il faut voir loin, il faut planifier. Et si je compare cela au programme américain pour le budget, ils sont capables de programmer des choses pour 20 ans. L'Amérique est aujourd'hui capable de dire qu'elle est capable de faire, par exemple, une guerre pendant 20 ans. Je vois que nous avons un problème très sérieux parce que nous manquons de vision, nous n'utilisons pas notre cerveau.
Pourtant, le président a annoncé un renforcement des conditions de vie et de travail des militaires maliens.
Ce n'est pas suffisant. Nous jouons souvent à la comédie, excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment cela. Et on ne peut pas et on ne doit pas compter sur les autres pays ou sur la communauté internationale pour la sécurité de sa population et pour l'intégrité territoriale de son État. Ça, c'est la première erreur. Et vous voyez que nos responsables politiques continuent encore à penser que nous ne pouvons pas assurer la sécurité seuls. Il faut toujours faire appel aux autres, ou dépendre, je ne dirais pas faire appel, mais dépendre. C'est vrai qu'il faut une collaboration, une coopération, c'est nécessaire. Mais notre sécurité ne doit pas dépendre des autres. Tant que nous ne comprenons pas cela, nous n'allons pas nous en sortir. C'est là le premier point. Et si on prend nos forces armées, il y a beaucoup de choses qui se passent qu'on ne saurait comprendre. Vous imaginez combien c'est insultant, dégradant et humiliant de voir que des camps militaires ou des bases soient attaqués de façon répétitive et que les assaillants arrivent à s'enfuir. Ça, c'est inconcevable. Ça, c'est quelque chose qu'on peut éviter. Et quand on voit, alors à qui la faute? Est-ce que ce sont nos hommes, nos soldats qu'il faut accuser? Le soldat, il n'est autre chose que ce qu'on a fait de lui. Si nous voulons des soldats efficaces pour des missions efficaces, nous devons leur donner l'équipement et l'entraînement ou la formation efficace. Ça fait défaut.
Mais quand vous dites que nous avons les moyens qu'il faut et qu'on n'a pas l'équipement et la formation qu'il faut, est-ce qu'il n'y a pas une petite nuance là-dedans?
Il n'y a pas une nuance. Nous avons les moyens. Il faut maintenant utiliser ces moyens. Nous sommes comme des enfants qui ont du pain devant eux et qui meurent de faim. Il faut se lever et prendre son pain. Aujourd'hui, notre armée n'est pas suffisamment équipée. Ce n'est pas quelques avions qui vont nous aider ou qui vont assurer la sécurité. C'est peu, c'est rien. C'est bien d'avoir quelques avions, mais c'est peu. Voilà ce qu'il nous faut. Nous avons au moins besoin d'une centaine d'hélicoptères. Ça, nous pouvons le faire. Mais lorsque nous voulons compter continuellement sur les étrangers ou sur la communauté internationale, mais la communauté internationale, je vais attirer votre attention sur ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. Il faut comprendre qu'il y a les violences terroristes ou des terroristes, mais aussi les violences exercées dans le cadre de l'instrumentalisation du terrorisme. Parce qu'au nom de la lutte contre le terrorisme ou de la guerre contre le terrorisme, certaines puissances cherchent aujourd'hui à protéger leurs intérêts. Et ça, nous devons le comprendre. Lorsque nous attendons de cette même communauté internationale de venir nous sauver, nous nous trompons d'objectif. Nous n'avons pas de vision. Il faut être lucide dans la lecture du contexte géopolitique mondial. Donc, il est temps de nous lever et de prendre à main notre sécurité nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Il faut réellement équiper. Si nous avons la volonté, nous sommes capables même de former des Maliens pour fabriquer des armes maliennes. Ça, on peut le faire. Et si Modibo Keïta, le père de l'indépendance, était là aujourd'hui, il aurait pouvoir faire cela. Il aurait pu faire cela.
D'accord.
Donc nous avons les moyens et il faut les exploiter pour assurer nous-mêmes notre sécurité.
D'accord. Professeur Samake, alors toute cette somme qu'on entend, Ibeka annonce, le gouvernement annonce une grosse somme qui sera allouée à l'armée malienne. Où va cet argent?
Bon, où va cet argent? Il faut pouvoir faire des enquêtes au niveau de la défense pour savoir où va cet argent. Mais à mon avis, la lutte contre le terrorisme nécessite la conception de nouvelles doctrines militaires. Vous n'êtes pas sans savoir que toutes nos armées ont été formées à la guerre conventionnelle. Or, ici, il s'agit d'une guerre asymétrique où souvent les ennemis se trouvent à l'intérieur de la population, hein, qui collabore avec elle, et elle a le temps, parce que toutes les dernières attaques qui sont passées récemment, ces cinq derniers jours, il semble que le mode opératoire était presque le même et que les gens connaissaient déjà, si vous voulez, le plan et même la force de frappe, comment dirais-je, de nos militaires. Et c'est en connaissance de cela, c'est pourquoi il va falloir changer la doctrine et trouver des mécanismes pour pouvoir protéger ceux qui informent l'armée. Parce que, à mon avis,
est-ce qu'on a le temps de changer cette doctrine au moment où les djihadistes également vont évoluer, changer de stratégie? Est-ce que cela veut dire déjà que c'est peine perdue?
Ben, ça doit se faire concomitamment. C'est pourquoi, quand je vois 5 minutes de la défense dans un pays qui est en guerre, je me demande quand est-ce qu'on a le temps de faire une véritable réforme, comment dirais-je, de la doctrine militaire. Mais ça doit se faire de façon concomitante, tout en renforçant la mobilité des forces de défense et de sécurité. Parce qu'il y a un pan de tourisme, mais au centre, il y a aussi un pan de banditisme. Donc, beaucoup plus de collaboration avec les populations en les protégeant, bien entendu. Parce que ceux qui ont été identifiés comme les informateurs ont souvent payé du prix de leur vie. Et dans ces conditions, ça n'incite pas les autres à informer, comme l'a dit Ikata tantôt. Donc, il faut trouver un mécanisme pour pouvoir protéger la population qui informe. Sinon, sans information, vraiment, et sans plus grande mobilité des forces de défense et de sécurité, je me demande comment on parviendra à bout de ces attaques.
Ibrahim Ikassa, est-ce que vous avez constaté également un manque de vision de la part de nos autorités?
Et il y a un manque de vision, ça c'est déjà au niveau suprapolitique, mais il y a surtout ce qui n'est pas acceptable, un manque de stratégie militaire, manque criard de stratégie militaire. Donc le même modus operandi a permis aux djihadistes de nous attaquer à plusieurs points, avec des jours successifs. Ok, donc on aurait au moins, avec une ou deux attaques après, changé de posture, donné l'alerte pour que, à tous les points de sécurité, on change de posture. Ok, mais ça n'a pas été fait. Nous avons dit, est-ce qu'il y a une réelle volonté de lutter contre le terrorisme? Puisque, en laissant le terrain, ok, à ces terroristes, on ne pourra que leur faciliter, ok, l'accès. Et justement, la mise en œuvre de leur macabre dessin. J'ai toujours pris pour exemple la boucle du Niger, le fleuve Niger qui quitte de Mopti, d'accord, et qui forme un barrage naturel entre la zone du Gourma et les régions semi-désertiques, ok, du nord, du nord-est, et puis donc en passant par Yuwaru, Niafunke, Tombouctou, Bourem, Gao jusqu'à Ansongo. C'est un barrage naturel et qui se boucle avec la frontière du Burkina. On pouvait, avec un nombre nécessaire de militaires, nettoyer cela pendant 2 semaines, 1 mois, et sécuriser cette zone pour que des forces étrangères, en tout cas des forces djihadistes, ne puissent plus pénétrer et faire des dégâts. Et même s'il y en a qui ont la hardiesse, puisque c'est des kamikazes souvent, de pénétrer, ils ne pourraient plus en ressortir, puisqu'on aurait maîtrisé des points stratégiques où ils sont nécessairement censés sortir pour s'échapper. Ce n'est pas fait. La même opération peut être faite dans la zone du centre. C'est une zone qu'on peut facilement sécuriser. Entre Nyono, Diabali, Léré, pour boucler sur Gachilumo. Ça, c'est une zone qu'on peut sécuriser. Mais on a des... combien? On a 20 000 hommes quand même. D'accord. Au Bamo. Maintenant, j'en viens. Maintenant, il y a un aspect qu'il ne faudrait pas négliger. Nous sommes sous tutelle. Nous sommes sous la tutelle internationale aujourd'hui, depuis l'opération Serval, où les forces maliennes ont été empêchées d'aller au-delà de Gao, okay, ou dans Nefif, d'aller au-delà de Gao. Et finalement, aujourd'hui, ce qu'il faut aussi interpréter, c'est de dire quelle catégorisation il faut donner aux groupes rebelles, aux groupes rebelles qui sont encore rebelles. Parce que ce n'est pas des ex-rebelles, ils sont encore en rébellion contre l'État puisqu'ils n'ont pas désarmé une seconde.
Est-ce que vous pensez qu'ils ont un rôle à jouer pour que le pays puisse être
mais
sécurisé
visiblement,
aujourd'hui?
Oui, ils sont censés être dans la même logique de lutte contre le terrorisme, sauf qu'ils n'en font pas. C'est comme un pacte entre eux et les groupes rebelles.
Écoutons, il y a un des responsables de la CMA.
Okay.
Mais ce qui est fait de la recrudescence de la violence, nous estimons que c'est, on l'a toujours dit depuis la signature de l'accord, nous pensons que c'est la lenteur qui a été constatée dans la mise en œuvre de l'accord en est pour beaucoup. On pensait que si l'accord avait été mis en œuvre rapidement, on allait développer les mécanismes prévus par l'accord, les mécanismes pour lutter contre l'insécurité et faire face à tous ces défis-là. Sans aucun état d'âme, je crois qu'il faut rapidement mettre en œuvre ces mécanismes, notamment aller vers la reconstitution d'une armée comme celle qui est prévue dans l'accord. On n'a pas encore entamé ce chantier-là. Le gouvernement parle de redéployement de l'armée, mais je me demande si c'est seulement la seule solution.
Non, on n'est pas réticent à déposer les armes. En réalité, nous, on a déposé les armes depuis la signature de l'accord. Depuis qu'on a signé les accords, il n'y a jamais d'affrontement, il n'y a jamais un seul coup de feu entre la CEMA et les forces armées maliennes. Mais maintenant, quant au désarmement, il faut d'abord, comme je viens de vous le dire, passer à la reconstitution de cette armée dont je viens de vous parler.
On a déposé les armes, et quant au désarmement, est-ce qu'ils ont réellement déposé les armes?
Ils n'ont pas déposé, je suis désolé de les dire. S'il y a accord de paix et qu'il y a cessez-le-feu, c'est entre tous les protagonistes, tous les signataires des armes, et il peut être d'accord avec moi que nous avons assisté à beaucoup de scènes d'affrontements très sanglants entre des signataires de l'accord. Donc, excusez-moi que je demande justement ces assertions. Ok? Maintenant, parlons des attitudes, en tout cas des accointances, en tout cas très apparentes, très évidentes, donc entre ces groupes rebelles et les groupes djihadistes, puisqu'ils écument les mêmes zones. Et il y a un pacte de non-agression, entre guillemets, puisque c'est uniquement les forces armées maliennes, sinon quelquefois les forces onusiennes qui sont justement qui font l'objet de ces attaques, mais jamais entre groupes djihadistes et groupes armés. Et ça, j'ai dit, c'est des grandes questions que nous devrons nous poser. Alors pourquoi cela? Est-ce qu'il y a un pacte d'où l'idée de dire alors on ne peut plus exciper de l'accord de paix, puisqu'il faut être quand même sincère avec ça. L'accord de paix a été signé, l'accord pour la paix, mais tout le monde s'inscrit dans une logique de lutte contre les groupes terroristes qui commence par la dénonciation, et ce qui n'est pas le cas de ces groupes armés.
Professeur Samake, est-ce que les groupes armés jouent en double jeu, notamment la CMA et la plateforme?
Ceci est visible, hein, parce que jusque-là, on ne connaît pas avec exactitude le nombre de combattants accantonnés. Et jusque-là, le prélude à la future armée qui est le mécanisme opérationnel de coordination, à l'exception de Gao, n'existe pas dans les autres régions. Alors, il devrait être opérationnel tant à Kidal, à Tombouctou, Kamenaka et à Kaoudeli, sous réserve. Bon, le fait du non-cantonnement fait qu'aujourd'hui, il est difficile de dire qui est groupe armé et qui est véritablement terroriste. Si je sais par ailleurs que l'actuel patron de la CIA était quand même vice-président de Amsterdam hier. Donc, à mon avis, c'est avec le cantonnement, et en cela aussi, il faut jeter la pierre devant l'aménagement qui devait aménager les 8 sites de cantonnement identifiés, que je sache à ce jour, moins de 3 sont opérationnels et pour un bataillon chacun. Or, si on se fie aux spéculations, de part et d'autre, schéma et plateforme, c'est des dizaines de combattants qu'il faut cantonner. Donc, est-ce que 8 ça suffira? Donc, à ce niveau, il faudra quand même que la communauté internationale aussi joue sa partition dans l'accord qui, de mon point de vue, était un accord pour la paix qui devait nous conduire à la paix, mais qu'on a transformé en accord de paix. Bon, vu tout. L'accompagnement financier qui va être mobilisé, encore une fois, j'ai dit que le Mali à lui seul ne pourra pas, que les autres parties prenantes de l'accord aussi jouent leur partition, fassent ensemble à la CEMA, pour que le mécanisme opérationnel de coordination puisse être opérationnel dans les autres régions, ce qui va nous conduire à la nouvelle armée.
D'accord, M. Poudjougou, nous sommes en direct. Un auditeur vient d'appeler tout de suite pour dire qu'eux, ils ne peuvent pas donner l'information parce qu'ils craignent pour leur propre sécurité.
C'est là encore une responsabilité de l'État. Et permettez-moi de dire certaines choses. Nous sommes parfois, nous, État, en tant qu'État, là je m'adresse aux responsables politiques, ceux qui sont à la tête vraiment, ils sont parfois aussi terroristes que les terroristes.
Expliquez.
Il faut le dire clairement. Parce que ils ne s'intéressent pas à la sécurité de cette population. Les gens continuent à mourir, des régions sont privées du système d'éducation et d'enseignement. Et malgré tout, on fait comme si tout va bien, on ne fournit pas suffisamment d'efforts. Et c'est grave lorsque une population donne des informations à l'État et que cette même population devienne une cible. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nous ne savons pas utiliser les informations. Et j'ai parlé de formation tout à l'heure, de doctrine, tout ça, c'est ensemble. Et Sancho, le grand stratège, le dit clairement. La doctrine fait naître en nous la même manière de vivre et la même manière de mourir, une unité de pensée. Elle nous rend intrépides et inébranlables face à la mort. Ça, c'est la doctrine militaire. C'est assez fort. Nous n'avons pas suffisamment de formation en ce qui concerne la doctrine. Et il faut aussi un bon service de renseignement. Parce que si on a un bon service de renseignement, on ne saurait jamais entrer dans une région et s'en sortir. C'est impossible.
Et pourquoi les services de renseignement n'arrivent même pas à prévenir les différentes attaques? Plusieurs attaques se sont succédées.
C'est pourquoi je dénonce ce terrorisme de l'État. Il faut le dire clairement. L'État est devenu plus terroriste que les terroristes. Pourquoi? À beaucoup de points, on le voit clairement, par exemple la corruption. Vous voyez que certains agissements, certaines situations encouragent ou légitiment le terrorisme. Qu'est-ce que vous allez dire à une population qui est abandonnée totalement par l'État, qui veut collaborer, aider l'État parce que c'est son pays, et qui est abandonnée par l'État? Vous croyez que quelqu'un d'autre qui va voir cela va essayer d'alerter? Donc l'État est à l'origine de cette situation. Et la corruption, l'injustice surtout, on ne peut pas fonder une nation sans la justice. Justice et sécurité vont ensemble. Parce que l'injustice crée la violence. L'injustice légitime les mouvements terroristes.
D'accord. Vous suivez le Grand Dialogue et vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter ou encore sur nos répondeurs à travers ces deux numéros, 75 84 11 11 ou 75 84 12 12. Alors, Monsieur Maïga, tout de suite, Monsieur Poudjougou vient de le dire, l'État est devenu terroriste selon lui. Est-ce que vous partagez cet avis?
Ok. Donc, c'est des mots. C'est des mots, mais je pense que l'idée qu'il veut véhiculer est simple. C'est que l'État qui a la responsabilité première, donc les tenants du gouvernement qui ont la responsabilité première, donc d'assurer cette sécurité et de conduire cette lutte contre le terrorisme en montant la bonne stratégie militaire, ne sont pas à hauteur de mission. C'est d'où le problème. Moi, je dis, alors adoptons-nous à la menace. Constituons l'armée de notre menace. Ayons la stratégie de nos menaces. Notre état-major général des armées ou autre, mais délocalisons-la sur le front de guerre. Ok, délocalisons-le. Tous ces points de névralgique-là qui sont laissés à l'abandon. Nous avons autant de généraux. Si ces généraux étaient responsabilisés, dans ces zones, comme Yuwaru, comme Léré, comme Nampala, où vous mettez 4 ou 5 généraux par zone. Nous sommes d'accord pour dire, ok, organiser la stratégie, coordonner avec l'état-major qui, par exemple, est à Sévaré plutôt que le G5 Sahel. celui de l'état-major général de l'armée du Mali, puisque c'est la ligne de front.
Voulez-vous dire que la plupart des généraux maliens sont à Bamako ?
Sont à Bamako, sont dans les départements ministériels. Nous sommes d'accord, nous avons besoin des têtes pensantes de l'armée. Les pauvres soldats sont là, sont démunis, attendent juste de recevoir des ordres, okay, pour justement avancer, mais ils n'ont pas cette capacité de coordination de la stratégie générale de lutte contre le... Ils n'ont pas une vue d'ensemble sur tous les territoires nationaux et les poches de menaces et autres. Ils ont juste des points qu'on leur confie et ils sont là. Maintenant, quand un général sait que... Il est dans le feu de l'action, il est dans les zones de feu. Et je pense qu'ils se mettront ensemble pour mieux coordonner. Je dis n'importe quoi, mais je suis dans cette mesure parce que ça encouragerait les autres compartiments de notre population, les simples civils et autres, informateurs, comme à collaborer pour dire « Ah non, maintenant c'est sérieux, la lutte est sérieuse, tout le monde est engagé, je vais jouer ma partition. » Mais si on ne voit que des pauvres soldats, laissés à eux-mêmes avec des moyens rudimentaires qui sont dans des petites tentes avec des petits sacs de sable pour protéger une zone, mais c'est terrible, ils ne pourront pas.
Et pourquoi également on entend toujours que c'est l'armée qui est attaquée, mais on entend moins souvent que l'armée est partie attaquer les terroristes?
C'est tout ce que j'avais exposé avant. J'ai dit il faut être offensif, il faut occuper le terrain. Il faut neutraliser les poches qu'occupent ces djihadistes-là et qui leur permettent de s'organiser et même de s'incruster au sein de la population. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que ces informateurs font leur travail. C'est que les menaces, okay, sont déclarées aux responsables militaires, aux checkpoints, pour dire « attention ». À quelques kilomètres de là, dans telle forêt, dans telle petite brousse, il y a telle personne suspecte qui sont...
Et pourquoi ils ne réagissent pas?
Mais justement, parce qu'il n'y a pas de stratégie. Parce qu'on reste cantonné, on est défensif, on est à la défensive et non à l'offensive. On ne s'organise pas, on ne s'adapte pas à la menace. C'est une hydre qui est rampante, alors il faut justement... la contrée comme telle.
D'accord.
Mais si on ne le fait pas, c'est le décompte macabre. On est aujourd'hui à près de 2200 morts au bas mot. Et c'est depuis les 4 ans que nous vivons ce pouvoir Ibeka. C'est ça le drame dans cette affaire.
D'accord. Alors, professeur Samake, la MINUSMA est là pour soutenir la paix dans le pays. G5 Sahel, Barkhane sont là pour lutter contre le terrorisme. Les FAMA ont été attaquées récemment. Est-ce que ces différentes forces ont réagi?
Bon, ces différentes forces, est-ce qu'ils ont réagi? Je n'ai pas entendu que la MINUSMA ait réagi. Bon, par rapport à la dernière attaque de Menaka, on a entendu qu'il y avait des hélicoptères en l'air. Est-ce que c'est des hélicoptères de l'armée malienne ou de la MINUSMA ou de Barkhane? Je n'en sais rien. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il faut beaucoup plus de coordination entre ces différentes forces, tant en termes de renseignement qu'en termes, comment dirais-je, d'appui logistique. Parce que, comme je l'ai dit, la MINUSMA, elle est venue pour stabiliser le Mali, donc aider le Mali à recouvrer son entière souveraineté sur l'ensemble du territoire. Mais aujourd'hui, elle joue beaucoup plus le rôle de force d'interposition que de force d'imposition.
Certains pensent que cette MINUSMA est beaucoup plus présente aujourd'hui dans l'action humanitaire que dans la sécurisation des différentes zones.
Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. On a comme l'impression que l'administration veut se critiquer à l'administration et faire le développement à la place, comment dirais-je, des Maliens. Donc, à mon avis, il faut recentrer les choses parce que, comme Koudou l'a dit, je crois qu'il voulait venir sur les problèmes de gouvernance. Nous devons reconnaître que ces 50 dernières années, nous avons eu beaucoup plus d'administration de représentation que d'administration de développement. C'est avec la collectivisation et le transfert des compétences aux collectivités territoriales qu'on a vu les services sociaux de base mieux se donner au niveau des collectivités. Et d'ailleurs, l'État peine encore à mettre la main à la poche pour respecter l'engagement de 30% des ressources budgétaires aux collectivités. Donc, l'un mis dans l'autre, il faudra quand même repenser la gouvernance. Ce n'est pas que dans les trois régions nord du Mali, c'est propre pour l'ensemble du territoire. Allez-y dans les zones comme Kangaba, il y a des bassins de production, mais il n'y a pas de route pour pouvoir écouler la production. Donc on doit se remettre en cause à ce niveau. Bon, il faudra aussi que l'ONU puisse mettre la porte du G5 Sahel sous le chapitre 5 pour pouvoir lui donner un mandat robuste et assurer un financement pérenne. Parce qu'on tente, on peine à mobiliser les 423 millions d'euros qui sont nécessaires pour la première année. Et après, comment la force sera financée si elle n'est pas sur le chapitre 7?
D'accord, monsieur.
Je suis sceptique. Les gagnants en Afghanistan, depuis près de 16 ans, ils sont là-bas. C'était une coalition de 15 pays appuyée par l'OTAN.
D'accord, M. Samaké. Alors, M. Poudjougou, toutes ces forces sont présentes ici. Est-ce que, quand on dénonce également un manque de collaboration entre l'armée et la population, est-ce qu'il ne faudrait pas également remettre en cause la collaboration entre ces différentes forces?
Oui, vous savez, je ne le cache pas, moi je ne compte pas beaucoup sur ces forces. Je vous ai dit, le contexte géopolitique international a ses réalités aussi, que nous ne cherchons pas à comprendre jusque-là. J'ai entendu le professeur Samaké dire quelque chose de très important en disant que l'accord pour la paix a été transformé en accord de paix. Alors, en même temps, nos officiels, nos représentants nous ont dit clairement que nous sommes engagés par l'accord et que nous l'avons approuvé. Alors, pourquoi avons-nous approuvé ou on nous fait croire qu'on a approuvé quelque chose qui nous est imposé? Lorsqu'on n'approuve pas quelque chose, il faut le dire. Qui approuve un accord au Mali? Ce n'est pas le président. Il faut le soumettre au peuple. Pour la Constitution, on voulait nous soumettre le projet par référendum. Pourquoi on ne l'a pas fait pour l'accord? C'était la première étape. Donc on voit depuis ce projet, depuis la signature de cet accord, que la population ne compte pas pour l'État. Le gouvernement, aujourd'hui, ne s'intéresse pas à la population. Nos hommes ne doivent plus mourir. On ne doit plus entendre parler de soldats maliens morts ou de civils morts. Il faut que ça arrête. L'État ne veut plus donner d'importance à la population. C'est pour ça qu'on ne la consulte pas. Et les forces internationales, je ne suis pas en train de les discréditer, mais il faut dire les choses clairement. Les Nations Unies, les opérations de paix des Nations Unies, depuis qu'elles ont existé, elles n'ont jamais fait ou elles ont très rarement montré une victoire.
D'accord.
Elles n'ont pas autant de succès. Donc, il ne faudrait pas compter sur des forces qui, depuis des années, des décennies, n'ont pas donné des bilans positifs.
D'accord.
Il faut prendre sa sécurité en main.
Réagir sur cette situation, écoutons-le.
Boni, hier, Soupi aujourd'hui, que cherche-t-on? L'effroi, la mise sous sommet d'un pays par l'effroi, par la peur. Telle est la vocation du terrorisme, faire peur. Mais nous ne sommes pas peuple à avoir peur. Nous ne sommes pas dirigeants à être effrayés, au point d'oublier notre mission. Notre mission régalienne qui est de défendre par tous les moyens possibles et imaginables, par toutes les voies possibles, notre vaillant peuple malien, notre vaillant peuple du Sahel, qui n'aspire qu'à vivre en paix et en sécurité. C'est pour cela que nous avons apprécié. Nous avons noté les communications faites par l'ensemble de la classe politique malienne à cette occasion. Qui a compris qu'il ne s'agissait plus de positionnement personnel, de nos petits jeux favoris, mais de la survie d'un peuple et d'un pays. Il est temps, il est grand temps que notre front uni national anti-terrorisme, notre front uni national pour le Mali soit enfin à l'œuvre et de manière vivace.
Alors, nous n'avons pas peur, mais les gens continuent de mourir. Monsieur Samaké, que pensez-vous de cette déclaration du président de la République en 30 secondes pour chaque invité?
Bon, en tant que chef des armées, il a le devoir et l'obligation de dire que nous n'avons pas peur. Nous n'allons quand même pas courber les chines, parce que personne d'autre que les Maliens eux-mêmes ne viendra nous aider à nous sortir d'affaires. C'est pourquoi j'ai dit que chacun doit jouer
son rôle. Merci. 30 secondes pour chaque invité. Okay,
je crois que c'est un peu sur le tard qu'il appelle au Front uni contre le terrorisme. Heureusement, c'est un nouveau discours puisque on ne traite plus les autres qui proposent des alternatives comme des empêcheurs de tourner en rond. Tant mieux alors.
Peut-on s'attendre à une évolution positive dans les prochains jours?
Oui, si nous changeons de stratégie et si nous avons une vision, il faut exploiter tous les potentiels, les ressources humaines, les ressources financières que nous avons pour améliorer la situation. C'est un devoir.
Merci. Fin de ce débat réalisé par Ibrahim Haran Diallo, mise en onde assurée par Mamadou Ouattara à la régie vidéo Salim Djouara. Je suis Mouhamadou Touré. On se retrouvera demain pour un prochain numéro. Merci.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo Dumondi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.